monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en universel du lundi 19 novembre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. En République démocratique du Congo, le candidat de la coalition au pouvoir, Emmanuel Chadari, dévoile son programme de gouvernance aujourd'hui. Au Tchad, une ONG exige la libération d'étudiants détenus, selon elle, abusivement. Reprise à la haie du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Et puis les 27 pays de l'Union européenne donnent leur feu vert à un projet d'accord avec la Grande-Bretagne avant un sommet extraordinaire prévu ce dimanche. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, nouvelle tension à l'université de Kinshasa. Selon un étudiant, des heurts se poursuivaient à la mi-journée. Des policiers tiraient à balles réelles en l'air et des gaz lacrymogènes. Et les étudiants répliquaient avec des jets de pierre. La police, elle, dénonce des infiltrations, assurant avoir rétabli l'ordre public. Depuis le 12 novembre, les étudiants manifestent pour réclamer la levée de la grève de leurs professeurs entamée depuis 2 mois sur des questions salariales. En restant en République démocratique du Congo, pour signaler que la campagne pour les élections du 23 décembre commence dans 3 jours, Emmanuel Chadari Ramazani, le candidat du Front commun pour le Congo, la famille politique du président Kabila, dévoile aujourd'hui son projet pour son pays. Nous voilà. On me dit qu'on a Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Thierry, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors, donc, Emmanuel Chadari devrait dévoiler son programme de gouvernance politique. Est-ce qu'il a commencé à parler?
Il a commencé à parler et depuis plus d'une heure maintenant, l'activité est en cours. J'ai même dû sortir de la salle pour vous faire part de ce qu'il a déjà dit parce qu'il était en train de conclure lorsque vous m'avez appelé.
Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut retenir jusque-là de ce qu'il a dit?
Ce qu'on peut retenir, c'est que d'entrée de jeu, le candidat du Front commun pour le Congo a commencé par rappeler ou dresser le bilan des années Joseph Kabila, à qui il a réservé un hommage par rapport au fait que c'est lui qui l'a désigné comme candidat du Front commun pour le Congo, après avoir grandi le bilan et le jeu, selon ce terme du mandat de Joseph Kabila, il a étalé son propre projet qui s'inscrit selon lui dans la continuité des actions de Joseph Kabila sur 4 piliers majeurs: l'assurance de la protection du citoyen et de ses biens par l'État, la garantie de l'emploi, des revenus suffisamment pour couvrir les besoins de base de tous les Congolais, la garantie de l'accès aux services publics de l'État et la démonstration de l'importance de la position géostratégique de la République démocratique du Congo. Et ce pilier majeur, et pour y arriver, pour les réaliser, il les étale sur 4 axes également: le renforcement de l'autorité et de l'amélioration de la gouvernance, la constitution d'une économie diversifiée et compétitive, la lutte contre la pauvreté, la garantie de l'accès aux services publics et la réaffirmation du rôle géostratégique de la République démocratique du Congo. Emmanuel Ramazani Chadari a évoqué plusieurs réformes, en tout cas annoncé dans le système pour améliorer le système sanitaire, éducatif, les infrastructures des bases de la République démocratique du Congo. Et sur ses 5 ans de mandat, s'il est élu président de la République, il compte mobiliser un budget évalué à 86 milliards de dollars américains.
Voilà. Merci beaucoup Thierry Kambundi. Depuis Kinshasa, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Convention tchadienne de défense des droits de l'homme exige la libération de 11 étudiants de l'université de N'Djamena, abusivement détenus depuis octobre à la suite d'une bagarre. Le point avec Nani Talani.
La Convention tchadienne de défense des droits de l'homme demande la libération immédiate et sans condition de ces 11 étudiants, se disant surprise par la décision de la justice de signer leur mandat de dépôt sans audition ni assistance de leurs avocats. Ces membres de l'Union nationale des étudiants du Tchad ont été arrêtés le 10 octobre. Ils étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt pour tentative d'assassinat d'un leader de leur union, ainsi que pour obstruction à la semaine de la citoyenneté initiée par le couple présidentiel. Leur arrestation fait suite à une rixe ayant opposé le 1er septembre un groupe d'étudiants favorables à l'initiative du couple présidentiel à d'autres étudiants hostiles à cette semaine de la citoyenneté. Cette bagarre avait entraîné des blessures de certains étudiants, dont M. Esserbe Dikréo Amos, qui s'était autoproclamé président élu de l'Union. Hormis les poursuites judiciaires, l'Union nationale des étudiants du Tchad demande au rectorat de prendre des mesures académiques pour sanctionner ces étudiants.
En Centrafrique, le bilan des affrontements de la semaine dernière à Alindao, dans le centre du pays, s'établit maintenant à 48 morts au moins, selon un rapport interne de l'ONU. Un précédent bilan faisait état de 37 morts, dont deux prêtres, dans des combats qui ont opposé jeudi des milices anti-Balaka à des combattants du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique. Samedi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait attribué l'attaque du camp de déplacés à l'UPC. Reprise ce lundi du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Les avocats de ces deux derniers plaident aujourd'hui à la haie. Raissa Girondin.
Ce lundi s'ouvre une nouvelle audience qui va durer 4 jours pour le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé à la CPI. Conduite par Maître Gougnon, la défense de Charles Blé Goudé est allée dans le même sens que celle de Gbagbo en essayant de démontrer que l'accusation ne basait son argumentaire que sur de simples spéculations. Il est accusé d'être chef des milices pro-Gbagbo par la procureure Fatou Bensouda. L'ex-leader des Jeunes Patriotes serait notamment impliqué, selon elle, au même titre que Laurent Gbagbo, dans des incidents violents suite à l'annonce des résultats de la présidentielle de 2010. Charles Blé Goudé rejette cette image de milicien. Depuis son incarcération en mars 2014, ses avocats le décrivent comme un homme de paix. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010 et de 2011 en Côte d'Ivoire. Le procès s'est ouvert en 2016 à la demande du président Alassane Ouattara qui a saisi la juridiction internationale.
En Éthiopie, un haut responsable d'un des partis de la coalition au pouvoir accuse le premier ministre Abiy Ahmed d'avoir ciblé des personnalités d'ethnie tigréenne dans une campagne de lutte contre la corruption au sein des services de sécurité. Le président du Front de libération du peuple tigréen a estimé que l'arrestation la semaine passée de 63 officiers de l'armée et des services de renseignement accusés de corruption et de violation des droits de l'homme était destinée à soumettre les Tigréens.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les 27 pays de l'Union européenne ont donné ce lundi un premier feu vert à l'accord de divorce négocié avec Londres. C'est le coup d'envoi d'une semaine d'intenses tractations avant un sommet exceptionnel dimanche à Bruxelles. Le point avec Lionel Gaïma.
Les deux parties doivent maintenant se mettre d'accord sur la nature de liens qu'elles garderont après le Brexit. Les autres points importants portent sur la longueur maximale de la transition après le 30 mars 2019 et le contenu de la relation future. La première ministre britannique Theresa May se rendra dans la semaine à Bruxelles. Ses détracteurs au Royaume-Uni lui demandent d'améliorer l'accord de 585 pages pour organiser la séparation. De leur côté, les 27 ont apporté lundi leur soutien politique à ce texte qui prévoit notamment le solde de tout compte que devra verser Londres à Bruxelles. Ce sera une semaine intense de négociations, a prédit Mme May, quelques jours après avoir réussi à faire endosser par son gouvernement l'accord provisoire avec Bruxelles au prix d'une série de démissions. Londres et Bruxelles doivent y esquisser les contours de leur futur partenariat. Ils ne pourront commencer à négocier formellement qu'après le départ officiel du Royaume-Uni, le 30 mars 2019. Les 27 devront approuver dimanche le texte sur la relation future, tout comme le traité de retrait, lors d'un sommet à Bruxelles.
La lutte contre le paludisme ne progresse pas, selon l'Organisation mondiale de la santé, dans un rapport publié aujourd'hui. Nous devons changer de cap, prévient le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs, a-t-il ajouté. Le paludisme est l'une des premières causes de mortalité au monde. 219 millions de cas ont été enregistrés en 2017, soit 2 millions de plus que l'année précédente. Et puis, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est parvenue à réduire son déficit budgétaire de plusieurs dizaines de millions d'euros grâce aux contributions de l'Union européenne et des États du Golfe après l'arrêt des financements américains. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Nanit Talani qui nous présente la Minute Éco.
La Côte d'Ivoire recevra 33 millions de dollars de la Banque mondiale pour lutter contre l'érosion côtière. Ce projet doit aider à préserver le littoral ivoirien, long de 566 km, principalement dans la commune de Grand-Laou, à 145 km d'Abidjan. Il devrait permettre de déterminer les menaces qui pèsent sur les habitants, les écosystèmes et les actifs économiques du littoral, de renforcer les capacités de lutte contre l'érosion côtière et l'adaptation au changement climatique. La Guinée-Bissau vient de signer un accord de pêche avec l'Union européenne. Cet accord s'étend sur 5 ans et permettra aux navires de l'Europe de pêcher dans les eaux bissau-guinéennes, moyennant un paiement annuel de 15,6 millions d'euros contre 9,5 millions d'euros précédemment. 11,6 millions d'euros iront au budget du gouvernement et les 4 millions d'euros restants seront affectés au système de surveillance des eaux territoriales, à la recherche et aux installations piscicoles. Enfin, pour terminer, en Algérie, le Conseil de la monnaie et du crédit qui agit en qualité d'autorité monétaire a décidé de doubler le capital minimum requis pour les banques et les établissements financiers du pays. Le seuil minimum passe de 85 millions de dollars à 169 millions, alors que le capital requis pour les établissements financiers passe de 30 millions de dollars à 55 millions de dollars. Un délai de 2 ans a été donné aux banques et établissements financiers algériens pour se conformer à cette exigence réglementaire.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
8 nouveaux qualifiés pour la CAN 2019.
Après le Cameroun, pays hôte, l'Égypte, Madagascar, le Sénégal et la Tunisie, 8 nouveaux pays ont validé leur billet à l'issue de la 5e journée des éliminatoires disputée le week-end écoulé. Il s'agit de la Côte d'Ivoire qui a assuré le nul d'un but partout à Conakry devant la Guinée, qualifié avant le coup d'envoi. Le Nigeria aussi s'est qualifié après son nul 1-1 en Afrique du Sud, tout comme le Maroc grâce à sa victoire 2-0 sur le Cameroun, combiné au succès des Comores face au Malawi.
L'Algérie et le Mali ont décroché leur qualification à l'extérieur.
Oui, au Togo pour les Algériens et au Gabon pour les Maliens. Les Fenecs ont nettement battu les Éperviers 4-1 et les Aigles ont réalisé le service minimum devant les Panthères 1-0. Qualification historique pour la Mauritanie après sa victoire 2-1 face au Botswana. Enfin, comme en 2017, l'Ouganda sera au rendez-vous de la CAN 2019. Les Crânes ont validé leur billet à domicile en s'imposant 1-0 face au Cap-Vert.
Des équipes ont raté l'occasion de se qualifier lors de cette 5e journée.
Oui, on peut citer l'exemple du Zimbabwe. Les Warriors, qui avaient la qualification à leur portée, se sont inclinés 1-0 au Liberia, un résultat qui relance les Libériens, désormais deuxième au classement, devant la RDC et le Congo, qui se sont neutralisés 1-1 dans le derby du fleuve Congo. Le Bénin aussi a raté l'opportunité de se qualifier à Banjul. Les écureuils battus par la Gambie 3-1 auront une finale à jouer en mars prochain contre le Togo, tout comme l'Afrique du Sud en Libye. Les Bafana accrochés à domicile par le Nigeria n'ont désormais qu'un point d'avance sur les chevaliers de la Méditerranée qui ont atomisé le Lesotho 8-1.
La grosse déception reste l'élimination de la Zambie.
L'équipe Polo Polo, champion d'Afrique en 2012, ne seront pas au Cameroun l'année prochaine. La faute à cette défaite 1-0 face au Mozambique. Déception également pour le Burkina Faso, battu 2-1 en Angola. Écoutons le sélectionneur des étalons, Paulo Duarte, très déçu.
Nous sommes découragés aujourd'hui de perdre la possibilité de décider pour nous-mêmes. On n'a pas joué dans l'attaque avec la force, la qualité que je pensais qu'on va jouer. Il faut le dire, on n'a pas joué, on n'a pas de crédibilité. On n'a pas gagné de duel individuel, on n'a pas rentré dans la surface, on n'a pas frappé, on n'a pas dépassé le défenseur pour servir l'attaquant. Pas de grande efficacité.
Pour se qualifier, les étalons devront battre la Mauritanie en mars prochain tout en espérant que l'Angola ne s'impose pas au Botswana. Par contre, le Ghana s'est relancé après avoir battu l'Éthiopie 2-0. Avec ce succès, les Black Stars reviennent à un point du leader kenyan.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
On va démarrer donc cette page magazine avec l'Union africaine qui a adopté certaines des réformes proposées par Paul Kagame ce week-end à l'occasion d'un sommet extraordinaire à Addis Abeba. Un des points de discussion était le financement de l'organisation. Morgane Guerriec a joint Ibrahima Kane, directeur du bureau de plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine à Dakar, au Sénégal.
Ils se sont entendus sur le pourcentage ainsi que les modalités de contribution des États. Il y a des États qui appartiennent à des communautés économiques, comme par exemple l'UEMOA, la CEMAC. Puisque l'argent passe par les banques centrales, il faudrait que les banques centrales s'arrangent. Ça pose quelques problèmes techniques. Mais ce qui est plus important dans cet aspect du financement, c'est le fait que les États ont aussi décidé que maintenant les récalcitrants paieront plus cher et n'ont que 2 ans au lieu de 5 pour vraiment régler leurs arriérés.
Qu'est-ce que ça va changer pour l'Union africaine ?
Actuellement, le budget qui est en cours est financé à presque 60% par les États européens. Alors, vous savez que qui finance décide de l'agenda. Cela est quand même impensable pour une organisation qui veut dédier toute son attention aux problèmes de l'Afrique et trouver des solutions africaines aux problèmes africains. La CEDEAO expérimente ce procédé depuis une dizaine d'années et le niveau de contribution extérieure au budget annuel de la CEDEAO est de l'ordre de 5%.
Le président Kagame prévoit aussi de changer le processus de désignation au sein de la Commission de l'Union africaine. Est-ce qu'il y a un consensus sur cette question ?
Ce qui s'est dégagé au niveau du fonctionnement de la Commission, c'est d'abord la réduction du nombre de commissaires de 10 à 8. Bon, c'est quand même une économie assez substantielle vu qu'un commissaire coûte à peu près 500 à 1 million de dollars. Dans le recrutement comme dans l'évaluation, il y aura beaucoup d'éléments de contrôle, de supervision de la part de l'Union. Avant, un commissaire pouvait demander à être réélu sans que l'on regarde de près le mandat passé. Maintenant, ça, ce n'est plus possible. Il va falloir passer par un système d'évaluation. Et le dernier élément, c'est aussi les méthodes de recrutement du personnel. Ce ne sera plus le copinage, le parrainage par des directeurs ou des commissaires. Ce sera un système beaucoup plus transparent.
C'était Ibrahima Kane de l'OSIWA, joint à Dakar.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, les responsables des services pénitentiaires tentent de changer la situation dans les centres de détention du pays. Ils indiquent avoir inscrit quelques 465 détenus dans des programmes de formation professionnelle et universitaire. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie dans un système pénitentiaire régulièrement critiqué par les organisations des droits de l'homme. C'est ce que nous dit Gilbert Tamba, le correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
Ils sont aujourd'hui plus de 75 000 détenus dans les prisons au Nigeria, répartis dans 240 centres de détention. Dans certains centres, les détenus ont la possibilité de suivre des cours de formation professionnelle. En outre, 12 centres de formation universitaire ont été établis dans différents États. Francis Enobore est chargé de la communication des services pénitentiaires du Nigeria.
Les programmes que nous offrons pour la formation professionnelle sont entre autres la coiffure homme, la couture et d'ailleurs cette tenue que je porte en ce moment a été réalisée par un prisonnier formé en détention. Et beaucoup d'entre eux réussissent bien dans la société. Il y a aussi la menuiserie, la soudure, la fabrication de chaussures et autres.
Les niveaux de formation dépendent des compétences déjà acquises par les détenus avant leur arrestation. Adeyi Théophilos Okechukwu est l'un des bénéficiaires du programme de formation supérieure. Il a obtenu un master en résolution des conflits et acquitté par la justice nigériane.
Quand nous avons commencé le programme, les autres détenus se moquaient de nous. Ils nous disaient « Pourquoi ne pas vous occuper de votre situation ? Trouvez une solution à vos problèmes avec la justice ou mieux encore, travaillez ensemble avec ceux qui sont condamnés pour sortir de prison au lieu de vous leurrer en disant que vous étudiez en détention. » Ils nous demandaient depuis quand on voit un détenu sorti diplômé d'une prison au Nigeria. Cela n'arrive jamais, mais avec l'engagement et la persévérance, nous avons pu continuer.
La surpopulation des prisons est liée au fait qu'environ 70% des détenus n'ont jamais été jugés et condamnés. condamnés. Mais le débat sur la situation des détenus en attente de procès dépassant le nombre de condamnés au Nigeria n'est pas nouveau. Sanusi Moussa est avocat au barreau nigérian. Il donne ici quelques raisons du retard dans le procès des détenus.
Dans la plupart des cas, la police envoie les gens en prison alors que les enquêtes ne sont pas finies. Ensuite, nous devons penser aux problèmes de logistique dans les prisons. Enfin, le nombre de juges disponibles est un autre problème parce qu'ils sont surchargés. Donc, quelle que soit la situation, ils doivent se prononcer sur toutes les affaires devant eux.
En 2015, le Nigeria a adopté une loi sur l'administration de la justice criminelle pour accélérer les procès. Cette loi limite le nombre d'ajournements des procès et stipule qu'un procès devrait se dérouler en un coup autant que possible. Mais cette disposition n'a pas encore permis de réduire le nombre de détenus en attente de procès. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Ce soir, dans À votre avis, nous parlons de l'importance des latrines pour la santé publique. C'est aujourd'hui la journée mondiale des toilettes. 4,5 milliards de personnes vivent sans latrine dans le monde. Et c'est un problème puisque les toilettes empêchent la propagation des maladies mortelles causées par les excréments humains. Comment évaluez-vous l'accès aux toilettes dans votre pays? Le manque de latrine a-t-il un impact sur votre quotidien? Morgane Viriek en votre compagnie. Réagissez en direct à 18h temps universel en appelant le 001-202-205-2633. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons.
Au Mali, la mégastar Salif Keita a donné un concert gratuit samedi au stade de football de Fana pour rendre hommage à la petite albinos Ramata Diarra qui a été assassinée au mois de mai dans cette localité. C'est un reportage de notre correspondant au Mali, Kassim Traoré.
Le terrain de football de Fana a refusé du monde. C'était à la faveur du concert gratuit pour rendre hommage à la petite albinos Ramata Diarra, assassinée à la veille de la présidentielle malienne.
Je trouve ce concert mémorable avec ce qui est arrivé à la petite Ramata. Tout le Mali a été choqué. Salif même qui est un peu l'ambassadeur même de ces gens qui sont discriminés. Je crois que c'est un message fort qu'il lance. J'espère qu'à travers ce concert, à travers ce forum qu'il a fait, ça va bousculer les choses parce que ça va faire peur peut-être aux gens pour dire que dès qu'ils vont agir de façon négative, les autorités et la société civile vont se mettre sur leur dos. Je pense que ça peut être un signal fort pour que les exactions et la discrimination des personnes atteintes d'albinisme s'arrêtent.
Fana n'avait pas abrité un tel événement. En plus de Salif, il y avait le Sénégalais Ismaël Lo ou encore la chanteuse malienne Safi Diabaté qui ont émerveillé le public de Fana.
Je suis de la Mauritanie. Ça va, la situation était bonne. On était là pour la conférence pour Afrique de l'Ouest et c'est bien passé. On a fait d'activités, on a fait d'actes d'échange et on a visité le centre de moto ici au niveau de Bamako. Et aujourd'hui, on est dans le concert et c'était impeccable. D'après ce que je vois, si on continue comme ça, on va gagner le combat.
Le public connaisseur de la musique était là pour les shows et l'hommage à Ramata Diarra, dont les parents étaient de la soirée, comme les albinos venus du monde.
C'était génial. Beaucoup d'amour, de solidarité, fraternité. C'était bien. La vie, c'est la paix. C'est ça que j'ai retenu. C'est une bonne chose, cette manifestation. On est tous là pour essayer que plus jamais ça ne se reproduise. Mais c'est un mauvais acte qui lui est arrivé. Enfin, que ça ne se reproduira pas. Moi, je suis française, mais je soutiens, quoi.
La soirée était très bonne. Je suis encore ici, la cour de Salif Keita. Je suis satisfait.
Le concert de Fana a été aussi une occasion pour les participants, surtout les artistes, de dénoncer les exactions dont sont victimes les albinos en Afrique et dans le monde.
Je suis venu pour découvrir le concert et c'était très très bien.
Que le message sera perçu.
En tout cas, par les gens qui étaient ici, c'est sûr, il n'y a aucun doute. Un gros concert comme ça, gratuit, ça marque les esprits. Et puis, il a fait venir beaucoup de personnalités, donc je pense que le message passe. Et c'est important de le faire passer, parce qu'il y a un besoin important, apparemment.
Il faut signaler que c'est le 13 mai dernier que la petite Ramata Diarra, 5 ans, avait été enlevée par des hommes armés, alors qu'elle dormait avec sa mère et sa sœur dans la cour de la concession familiale. Son corps décapité a été retrouvé quelques heures plus tard, à côté d'une mosquée. À l'époque, des associations avaient dénoncé un crime rituel à l'approche de la présidentielle malienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, le bilan du Camp Fire, l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, s'est encore alourdi après être passé à 77 morts hier soir. Les autorités américaines mettent les bouchées doubles pour contenir le drame qui ravage presque chaque année cette région américaine. Les précisions avec Irénée Herman-Yungbo.
Toute l'Amérique reste sous le choc. Près de 10 000 habitations ont été détruites par ce brasier dont les fumées ont atteint la capitale Sacramento, à 130 km au sud de la ville de Paradise. Sur les 77 victimes, seulement 67 ont pu être identifiées. 993 autres sont encore portées disparues et les autorités ont appelé leurs proches à fournir des échantillons d'ADN pour aider à l'identification des corps retrouvés. Mais avant le constat est clair, Paradise a été rasé par les flammes, constate avec amertume Ryan Zink, ministre américain de l'Intérieur.
Paradise, malheureusement, ne sera probablement plus la même ville. Rien qu'à voir l'ampleur des dégâts. Les feux de forêt sont tous mauvais, mais cet incendie est sans précédent et à bien des égards. Le gouverneur et moi avons fait des tournées. Nous allons en faire aujourd'hui. Mon rôle est de veiller à ce que les ressources fédérales soient ici et bien coordonnées.
Camp Fire a ravagé plus de 60 000 hectares. Le président Donald Trump s'est rendu à Paradise samedi pour se faire une idée de la situation sur le terrain. Difficile d'évaluer à ce stade le nombre de victimes, ces feux demeurent un véritable casse-tête pour les autorités qui appellent à l'union de tous les secteurs pour combattre ce phénomène récurrent, insiste le ministre de l'Intérieur américain.
C'est insoutenable que cela se produise année après année ou d'avoir une saison comme celle-ci au cours de laquelle avoir des centaines de milliers d'hectares en flammes devient une routine. Nous sommes une grande nation. Ce n'est pas un problème républicain ou démocrate, c'est un problème américain et nous devrions le traiter comme tel.
Le gouverneur sortant de la Californie, Jerry Brown, suggère une meilleure gestion des forêts.
Nous devons désormais mieux gérer nos forêts. Nous allons devoir construire nos villes plus intelligemment. Nous devrons construire des abris pour accueillir les gens lorsque ces terribles incidents deviennent incontrôlables. Et oui, nous allons avoir à faire face au changement climatique, être du côté de la nature et non pas seulement la combattre.
À cause de ces incendies, plusieurs milliers d'Américains sont sans logis. Une partie de l'histoire du pays a aussi été perdue dans le Woolsey Fire qui a touché Malibu et les collines de la banlieue ouest de Los Angeles, détruisant notamment le Paramount Ranch, un ancien lieu de tournage qui accueillait les projections estivales des films muets.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, Curtis Bynon. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les